Bon, ça va pour l'instant, ça va. Je sais pas comment interpréter ce verre d'eau. Est-ce que j'ai l'air d'être très fatigué? Je sais pas. Non, ça va, ça ne fait que commencer, hein, peut-être tout à l'heure. Des citoyens qui sont expressifs, qui, notamment via Internet, expriment, donnent leur avis, y compris lorsqu'on ne leur demande pas, ont envie de se faire entendre lorsque une question les intéresse et les droits d'entrée dans l'espace public, hein, ou en tout cas sont devenus de plus en plus, les coûts d'entrée de plus en plus faibles. Et on voit même une minorité de la population critiquer très frontalement la représentation. Jusqu'à présent, les gouvernants étaient critiqués, mais pas le système démocratique lui-même. Mais on commence à voir monter une défiance à l'égard de la démocratie représentative en elle-même. Je suis frappé que le mouvement des indignés ou le mouvement Occupy a fondé son action sur cette critique de la représentation et la volonté de revenir à d'autres formes de démocratie directe, de pratique du consensus. Ça, me semble-t-il, c'est une nouveauté. On ne sait pas si ce sera une lame de fond, mais ça questionne évidemment l'avenir de nos gouvernements représentatifs. Des sociétés ingouvernables, aujourd'hui, ou moins facilement gouvernables qu'autrefois, dans lesquelles un modèle autoritaire et vertical de prise de décision ne fonctionne plus, très clairement. Des sociétés qui doivent faire face à des crises et à des adversaires qui sont extrêmement puissants. Les adversaires de la démocratie sont très nombreux, hein. Les experts, tous les pouvoirs non élus se méfient évidemment du débat public et de la participation citoyenne et rêvent de transférer directement le pouvoir à des techniciens qui finalement géreraient la société d'en haut. La crise environnementale, évidemment, aujourd'hui, hein, un point qui me paraît tout à fait essentiel, menace le maintien à moyen terme des conditions mêmes de la démocratie. Hein. Nous devrons faire face à des conflits autour des ressources, nous devrons faire face à un contexte dans lequel il sera de plus en plus difficile de prendre la décision sur un mode démocratique. Et puis nous voyons la tentation de l'autoritarisme, la tentation du fascisme, hein, disons les choses telles qu'elles sont, revenir sous différentes formes, et on voit bien combien pour les citoyens ce retour à des formes de pouvoir brutal mais clair peut être envisagé comme une solution. Et face à cette transformation profonde de nos sociétés et à ces évolutions assez sensibles des représentations citoyennes et des compétences citoyennes, nous avons des institutions qui sont nés à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte tout à fait différent. Je le rappelle simplement, aux États-Unis et en France, les pères fondateurs de nos constitutions modernes, les inventeurs du gouvernement représentatif, détestaient la démocratie. Ils souhaitaient penser et construire un idéal de gouvernement qui forme une alternative à la fois à la monarchie et à la démocratie. La démocratie était perçue comme un régime dangereux, archaïque, obsolète, et l'idée était d'éloigner le plus possible les citoyens du processus de décision. Les fondateurs du gouvernement représentatif, ça a été rappelé notamment par un auteur comme Bernard Manin, n'étaient pas démocrates. Le mot démocratie a été péjoratif jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors comment concilier ce changement avec un régime qui confie à une aristocratie élective, à une minorité de la population, le soin de prendre la décision au nom de tous les autres? Il y a nécessité de réinventer, d'innover sur le plan des institutions, me semble-t-il. Il n'y a pas nécessité forcément de substituer à la démocratie représentative des formes de démocratie directe. Je crois que les citoyens ne souhaitent pas se substituer aux gouvernants, mais réinventer les relations, les formes de relations entre les élus et les citoyens. Alors la démocratie participative, elle a commencé à se mettre en place sous différentes formes. Il y a d'abord des formes de réglementation. Elle peut s'analyser sous l'angle du droit. Il y a un droit à la participation et un droit de la participation qui s'est mis en place dès une offre de participation venue d'en haut. On le voit dans le domaine de l'environnement. La convention de Aarhus dans le domaine de l'environnement en 1998, qui a été signée par la France en 2003, mais qui a dû être signée aussi, je l'imagine, par la Belgique. Cette convention établit un droit des citoyens à la participation au processus de décision sur les questions d'environnement, un droit à l'information et un droit à la justice, un droit à la venue devant les tribunaux. Ce droit de la participation, il produit des effets. Dans un pays comme la France, aujourd'hui, nous voyons les effets de ces principes se mettre en place. Et aujourd'hui, il est clair que la concertation est devenue la norme en matière environnementale. Et notre charte de l'environnement, un texte constitutionnel, consacre dans son article 7 ce droit. On le voit aussi dans l'action publique locale, toute une série de textes, d'initiatives visent à associer les citoyens à la discussion des affaires publiques, des projets. Et je suis frappé par l'extension continue de cette législation. Ce droit a été pendant longtemps un droit relativement peu contraignant pour les élus. Ils doivent faire de la concertation, en tout cas en France, ils doivent faire participer les citoyens, mais le droit ne dit pas comment ils doivent faire participer. Ils peuvent se contenter du minimum légal sans que les tribunaux ne s'y intéressent. Mais l'évolution qui est en cours conduira, je le pense, nécessairement à faire en sorte que les tribunaux s'intéressent de plus en plus à la manière dont on fait participer, à la qualité même de la concertation. Et ce n'est sans doute pas un hasard s'il y a 2 ans, le Conseil d'État, la principale juridiction administrative française, a fait son rapport annuel sur la participation et la délibération en établissant un certain nombre de standards de qualité de la participation. Nous avons, avec la démocratie participative, un mouvement international aussi. Ça n'est pas une affaire uniquement européenne. On sait qu'en Amérique latine, au travers d'expériences comme celle du budget participatif de Porto Alegre au Brésil, dans d'autres pays latino-américains, le Venezuela se revendique par exemple d'une forme radicale de démocratie participative, éminemment discutable, mais la thématique est extrêmement présente sur le continent latino-américain, avec un contexte très différent du nôtre, où là, l'enjeu est de lutter contre le clientélisme, la corruption. Alors, très différent, pas forcément, mais la démocratie participative est perçue comme un instrument visant à établir une certaine transparence de l'action publique, et surtout, elle est associée à la thématique de la démocratie directe, avec l'idée qu'il s'agit réellement d'un transfert du pouvoir aux citoyens. C'est ce que revendiquait Porto Alegre aux plus belles heures du budget participatif. On voit dans les pays anglo-saxons, me semble-t-il, se dessiner une version néolibérale de la démocratie participative. Lorsque Tony Blair en Angleterre, ou aujourd'hui David Cameron, se réclame de la participation citoyenne, c'est avec une toute autre vision. C'est l'idée selon laquelle il faut à tout prix contourner les institutions politiques classiques et puis se décharger sur les initiatives citoyennes d'une partie des services publics, de l'action publique. C'est le projet de Big Society de David Cameron. C'est une version clairement de droite de la démocratie participative. Nous voyons aussi certaines organisations internationales revendiquer cette thématique. La Banque mondiale, depuis longtemps, est porteuse d'une vision de la démocratie participative et conditionne de plus en plus les projets en direction du Sud à une participation, les projets de développement à une participation des citoyens. À la fin de l'année dernière, un sommet africain sur la démocratie participative a eu lieu à Tunis et on voit aussi dans les pays du Sud des initiatives émerger. La Chine s'intéresse à la démocratie participative avec d'autres pays autoritaires comme possibilité de gérer les conflits d'environnement sans évidemment assumer les coûts de l'élection. Il y a des réussites à l'échelle internationale, il y a des expériences à l'échelle locale qui se multiplient et on peut analyser la démocratie participative comme l'une des réponses formulées par les autorités en place aux transformations structurelles de la société. Il y a aussi enfin une consolidation des expériences, une professionnalisation de la démocratie participative. La création du master à la Sorbonne en est un des indicateurs. Il y a des professionnels de la participation, des consultants, des universitaires, des chargés de mission qui vivent de et pour la participation citoyenne, qui développent des technologies, qui vendent des dispositifs clés en main avec tous les risques que ça comporte. En France, il y a un début, l'émergence d'une structuration de ce monde de la participation. Tout ça de manière souvent invisible du débat politique national. En France, il est clair que après l'échec de la campagne de Ségolène Royal en 2007, Ségolène Royal s'étant vraiment affichée derrière cette revendication politique, derrière cet argument, la démocratie participative a considérablement reflué du débat politique national. Mais à l'échelle locale, il y a des transformations invisibles qui dénotent un début d'institutionnalisation de la démocratie participative. Alors face à cela, il y a des réticences, il y a des oppositions, il y a des critiques, il y a même quelquefois une certaine violence contre ces expériences. Ces réticences, elles viennent des élus qui sont un peu schizophrènes à l'égard de la participation. Ils mettent en place de la démocratie participative, mais en même temps, ils en ont peur. Ils ont peur du débordement citoyen, c'est un grand classique. Ils ont peur que le peuple prenne vraiment la parole et ils ont peur aussi, et ça je m'en suis rendu compte un peu tardivement, ils ont peur aussi que ça marche trop bien, c'est-à-dire que les citoyens démontrent que les élus ne servent à rien et que les experts finalement ne soient pas aussi utiles qu'ils le disent, et leur tentation c'est de verrouiller les dispositifs participatifs pour qu'il ne s'y passe rien justement, c'est-à-dire de limiter la participation à des aspects très secondaires la décision publique. Cette ambivalence des élus renvoie aussi à une représentation de la représentation politique qui est très, très ancienne. C'est l'idée que seule l'élection donne de la légitimité dans nos démocraties. Il n'y a pas d'autre possibilité de concevoir la légitimité hors de l'élection, et ça correspond, notamment en France, je crois que c'est beaucoup moins le cas en Belgique, à un processus de sacralisation de l'élu, de mise à distance des élus et des citoyens qui est extrêmement présent à tous les échelons de politique en France. Réticence des experts aussi, réticence des techniciens, qui sont bousculés et contestés dans leur rôle traditionnel, pour qui il devient impératif de traduire leur langage face aux citoyens, pour qui il devient impératif quelquefois de faire de la politique, ce à quoi ils n'ont pas été formés, et qui restent aussi persuadés qu'ils détiennent le monopole de la vérité ou de la compétence. Et ça se voit à tous les niveaux. À l'échelle des collectivités locales, les techniciens ne sont pas forcément les alliés de la participation. Ils renâclent, ils rechignent à aller devant les citoyens. Ça leur demande du travail, ça leur prend des soirées. Les élus les laissent souvent seuls. Il est clair qu'il faut une volonté politique très forte pour obliger les techniciens à jouer le jeu. Et puis, vous avez les associations. qui, pour la plupart d'entre elles, se méfient de la participation, pour plein de raisons. Certaines ne veulent pas être enrôlées dans le processus de décision et veulent garder leur distance critique. Et il est évident que la participation peut être un piège. Hein, on essaie de partager les responsabilités, certaines n'en veulent pas. Mais les associations aussi ont peur de se faire court-circuiter. Elles préfèrent maintenir un système de relations qui leur permette de s'adresser directement aux élus en revendiquant le fait d'être porte-parole de la société civile. Lorsque vous mettez en place des dispositifs qui tendent à mettre à l'épreuve leur représentativité, les associatifs ne sont pas forcément d'accord et peuvent eux aussi ne pas jouer le jeu de la participation. Et je pense là notamment aux grandes associations dont les relations avec le pouvoir politique sont anciennes. Et puis vous avez les citoyens qui sont pris dans des injonctions contradictoires, on leur demande de participer, on les culpabilise lorsqu'ils ne le font pas, et quand ils participent vraiment, on les remet à leur place en leur disant « bon, finalement, fini de jouer, maintenant c'est nous qui détenons l'autorité », et il est évident que ça les perturbe. Et puis des citoyens qui ne sont pas idiots, qui s'aperçoivent que quand on est là simplement pour faire croire que l'on fait participer, ils n'ont aucun intérêt à continuer à jouer le jeu. Et donc nous avons effectivement ce paradoxe d'une évidence de la participation, de l'existence d'un impératif participatif et d'une mise en œuvre qui suscite beaucoup de soupçons et qui rencontre beaucoup d'obstacles. Alors maintenant, je crois que face à ça, il importe de clarifier les enjeux et les dimensions du phénomène. Ce sera mon deuxième point. Et rassurez-vous, je ne serai pas trop long. Alors d'abord, clarifier les enjeux, clarifier les objectifs que l'on cherche. Il est clair que très souvent, on ne sait pas pourquoi on fait participer à proprement parler. On fait participer parce que ça fait bien de faire participer, parce que d'autres le font, etc., parce qu'on y est contraint. Mais pourquoi le fait-on ? Et là, pour ce faire, il faut revenir à la philosophie politique. Il faut revenir à des réflexions anciennes sur la démocratie et les conditions mêmes de la démocratie. Et je crois que la démocratie participative, elle peut renvoyer à deux idéaux politiques très différents, très différents. Le premier idéal politique, c'est un idéal de politisation de la société. L'idée serait que la démocratie participative doit permettre de fabriquer de la citoyenneté, fabriquer de bons citoyens, fabriquer des citoyens actifs. C'est une idée qui est commune à différents auteurs dans l'histoire de la philosophie politique, évidemment les Grecs, mais aussi Tocqueville ou John Stuart Mill. C'est l'idée que plus les citoyens participeront et mieux la démocratie se portera, et que l'indifférence citoyenne débouche nécessairement sur le retour de solutions politiques autoritaires. C'est ce que dit Tocqueville, c'est le despotisme doux qui se met en place lorsque le citoyen se replie sur la sphère privée. Et on voit bien à quel point cet impératif est essentiel aujourd'hui, alors même que tout conduit à transformer les citoyens en consommateurs. Tout conduit à transformer, à produire de l'indifférence politique chez les citoyens. On peut dire autrement que c'est un idéal d'éducation populaire aussi qui est derrière celui de la démocratie participative. L'enjeu est d'éviter que nos démocraties meurent du sommeil ou de l'indifférence citoyenne. Alors ça va dans le sens d'une reconnaissance du conflit et de l'importance du conflit et des tensions dans la société. Ça, c'est le premier idéal. Le deuxième idéal, c'est un idéal de démocratie délibérative. Comme le disent les anglo-saxons plus que nous, la démocratie délibérative, elle vise cette fois à produire des décisions légitimes, à produire non pas de meilleurs citoyens, mais de meilleures décisions, à faire en sorte qu'elles soient mieux acceptées par la population et qu'elles aient une probabilité plus forte d'être justes et rationnelles. C'est la thèse de Jürgen Habermas, c'est l'idée que dans la démocratie délibérative, tout doit être fait pour que la force du meilleur argument l'emporte. C'est l'idée aussi de la recherche d'un consensus intersubjectif entre les citoyens et d'un idéal, on peut le dire, de décision rationnelle, hein, rationnellement fondée. Et on voit bien que les deux idéaux, celui de la démocratie participative stricto sensu et celui de la démocratie délibérative, peuvent entrer en conflit. Hein. Dans un cas, il s'agit de faire en sorte que le maximum de citoyens sur le maximum de questions et le plus souvent se mobilisent au risque du conflit. Et dans l'autre, il s'agit de produire, de rechercher du consensus rationnel entre citoyens. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de quantité, d'une part, et un enjeu plus de qualité, d'autre part. Mais bon, on pourra y revenir. Clarification des enjeux, clarification aussi des démarches, des procédures, des modalités de la participation. On a affaire aujourd'hui, par rapport à ces deux grands enjeux, à des procédures qui sont extrêmement différentes. Il faut d'abord distinguer de manière très classique la démocratie directe ou semi-directe, hein, le référendum, de ce qu'on pourrait appeler la co-décision, dont l'exemple phare est le budget participatif, de la consultation ou de la simple concertation. Hein, on est finalement dans des degrés, ça a été souvent répété, des degrés d'implication des citoyens très différentes. Mais vous avez aussi d'autres différences. Il y a des dispositifs qui sont plus ou moins ouverts ou fermés. En France, nous avons le prototype du dispositif relativement ouvert, qui est le débat public, la Commission nationale du débat public, qui est un dispositif que je trouve particulièrement intéressant et important. Sur tous les grands projets d'infrastructure, c'est-à-dire supérieur à 350 millions d'euros, le gouvernement est obligé, en tout cas le maître d'ouvrage, est obligé d'organiser un débat public d'une durée de 4 mois dans lequel chacun peut argumenter, chacun peut prendre la parole pour dire s'il souhaite ou pas de ce projet. On a le prototype d'un dispositif ouvert. Mais ce dispositif, il s'expose au risque du conflit, de la contestation. Et nous avons aujourd'hui, en ce moment, un débat public qui tourne assez mal autour de l'enfouissement des déchets nucléaires, dans lequel une partie du public a fait sécession et fait obstacle au bon déroulement du dispositif, si bien que les réunions ont lieu à huis clos, sur invitation, quelquefois par Internet. Hein, et on voit bien à quel point ces dispositifs très ouverts, sont aussi très fragiles. Et puis vous avez à l'inverse des dispositifs beaucoup plus fermés, beaucoup plus verrouillés, comme les jurys citoyens, les conférences de citoyens. Là, vous tirez au sort 15 à 20 citoyens, et puis vous leur donnez de l'information, et ils produisent un avis consultatif à l'issue de plusieurs week-ends de discussion. Et là, les risques pris par l'autorité politique sont beaucoup plus faibles. Il est très facile de faire en sorte que ces 20 citoyens restent tranquilles, et on a une forme de cadrage de la discussion beaucoup plus forte. Vous avez des dispositifs, par ailleurs, plus ou moins institutionnalisés. Hein, c'est l'opposition entre les conseils de quartier, qui en France sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants depuis 2002, versus des dispositifs de concertation ad hoc, beaucoup plus focalisés sur un objet et dans le temps. Il y a un vrai problème d'institutionnalisation de la participation. Quel devient le statut de ces conseillers de quartier tirés au sort ou désignés par le pouvoir? Quelle est leur représentativité? L'institutionnalisation de la participation présente des limites qui me semblent extrêmement fortes et je crois qu'il faut faire attention à ces différences. Et puis enfin, vous avez des dispositifs qui construisent des publics et reposent sur des philosophies politiques différentes. Certains dispositifs visent à faire surgir des informations, à faire surgir des solutions. Par exemple, vous avez un dispositif qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui est le forum ouvert, l'open forum. Vous réunissez des gens et puis vous leur demandez de projeter, d'inventer, d'imaginer. Et puis vous avez des dispositifs à l'inverse qui demandent aux gens simplement de trancher. Hein, de choisir entre différentes solutions. Et on voit bien là que le moment auquel cette participation s'impose n'est pas du tout le même. Maintenant, troisième point, et je m'aperçois que je suis trop long et je ne veux pas du tout monopoliser la tribune, Quelles sont maintenant les limites et les effets pervers de la participation? Il y a des limites qui sont aujourd'hui bien identifiées, qui sont à peu près toujours les mêmes. La première limite, c'est la question de l'échelle. À quelle échelle on fait participer? Comment on fait correspondre le public qui participe avec le public concerné par la décision? Et ça, c'est extrêmement compliqué. La plupart du temps, on fait participer le public à une échelle de proximité, à une échelle micro-locale, qui n'est pas l'échelle véritable de la décision. Et on voit bien que ça produit là des effets complètement pervers. Si vous ne faites participer que le quartier concerné par l'incinérateur à la décision sur l'implantation de l'incinérateur, vous ne vous donnez pas les moyens de confronter ce public qui sera hostile, évidemment, à l'incinérateur ou à l'équipement, avec ceux qui pourraient en bénéficier. Donc, vous biaisez le processus et vous condamnez à ne recueillir que des opinions hostiles et à ne faire qu'entretenir les égoïsmes locaux. Ça vaut aussi pour les échelles plus grandes. Comment faire participer à l'échelle nationale? Et je serais très intéressé d'écouter David Farrell sur son expérience. C'est beaucoup plus compliqué parce que là, la concurrence entre les légitimités devient claire. Comment finalement éviter que le Parlement, que les syndicats, que tous ceux qui ont en charge la représentation du public ne voient pas comme une concurrence directe les dispositifs citoyens qui seraient mis en place à cette échelle. Et puis enfin, le problème... Vous voulez que j'arrête ? Non, ça va, je peux continuer. Le problème général, c'est que de très nombreux problèmes aujourd'hui transgressent les frontières politiques, et notamment à l'échelle mondiale. L'idée d'un démos mondial, l'idée d'une participation citoyenne à l'échelle mondiale se heurte à des difficultés gigantesques, et on voit bien que nous sommes réduits à des solutions de second best solution du type ONG, qui sont censées porter cette participation, et on voit bien à quel point ça ne suffit pas. Ça, c'est le premier problème, problème de l'échelle. Deuxième problème, le problème de la représentativité des dispositifs. Et je sais que vous y êtes très attentifs. Dans la plupart des dispositifs et des expériences, ce sont les plus forts qui se font entendre. C'est ceux qui sont déjà entendus par les autorités dans le cadre des institutions représentatives. Ce sont ceux qui ont le plus de ressources en termes de capacité à prendre la parole et à être entendu. Il y a un vrai problème de reproduction des inégalités par la participation et un vrai enjeu d'inclusion pour éviter que ce soit toujours les vieux mâles blancs éduqués qui y soient présents. Alors je sais que ce problème est d'autant plus fort qu'en France, nous avons affaire à une gérontocratie, une phallocratie, etc., beaucoup plus forte que chez vous en Belgique, mais c'est un problème essentiel, et on voit bien que dans les conseils de quartier, les dispositifs ouverts, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est toujours les mêmes qui sont là, et c'est toujours les mêmes qui l'emportent, les jeunes, disparus totalement, les minorités ethniques, et surtout les classes catégories populaires n'y sont pas. Troisième problème, c'est la tentation de l'insignifiance des dispositifs. Lorsque vous mettez en place de la participation citoyenne, mais qu'il est clair que, un, vous n'en prendrez pas compte, vous n'en tiendrez pas compte, et que, deux, si jamais vous en tenez compte, ce sera forcément sur des aspects secondaires de la décision, il est clair que vous risquez de produire plus de frustration que d'enthousiasme, et vous risquez finalement de produire un effet contraire à celui que vous recherchiez. Et le problème de l'articulation de la participation sur la décision est un problème qui n'est quasiment jamais réglé, sauf dans les cas où le pouvoir s'engage, contractualise partager la décision, ce qui est un cas extrêmement minoritaire, vous l'aurez compris. Alors, pourquoi, malgré ces difficultés, il faut s'y intéresser, et pourquoi on ne peut pas faire l'économie de l'innovation démocratique, de l'innovation politique? Parce que ça change des choses. Sur le plan de la démocratie participative, c'est-à-dire derrière cet enjeu d'inclusion du maximum de personnes dans le maximum de décisions, cet enjeu, il peut être atteint avec d'énormes difficultés, et à condition d'investir cette question et de la prendre au sérieux de manière claire. Ma collègue Marion Carrel, dans un livre récent qui s'appelle « Faire participer le public », a montré que sous certaines conditions, en déployant une énergie et une volonté politique forte, on pouvait inclure les citoyens les plus marginalisés dans l'espace public. On pouvait leur redonner confiance dans la politique. On pouvait convertir certains d'entre eux à l'engagement, et à un engagement un peu plus durable. Mais cet investissement, ces expériences sont fragiles, elles sont soumises à des obstacles importants, mais ça peut fonctionner, on peut y arriver. Du point de vue de l'idéal de démocratie délibérative, on voit plus clairement les résultats. Reconnaître l'expertise citoyenne, les savoirs d'usage est aujourd'hui largement reconnu. Même les élus les plus hostiles à la participation reconnaissent qu'ils n'ont pas la science infuse et qu'il peut être utile d'écouter les usagers pour éviter de produire des décisions absurdes. Hein, apprennent l'humilité via la participation. Et ça, je pense que c'est une avancée majeure aujourd'hui. Et puis on voit des transformations dans l'action publique. On voit quelquefois des services qui tirent un profit de la participation, qui y voient un sens donné à leur action, qui élaborent mieux leurs projets en anticipant les conflits à venir. On voit des processus d'apprentissage réciproque se mettre en place. Et tout ça, ça n'est pas uniquement du discours. On peut l'observer dans les collectivités qui ont vraiment mis la participation à l'agenda. Je pense par exemple au Conseil général du Val-de-Marne, je pense au Conseil régional Poitou-Charentes, je pense à la région Toscane en Italie qui avait à un moment fortement investi dans la participation. On voit des concertations réussir. Il m'est arrivé d'être garant d'une concertation autour d'un pont organisé par la communauté urbaine de Bordeaux. On a vu toutes les parties en présence satisfaites du résultat et les élus reprendre 80% des préconisations de la concertation. On voit des jurys de citoyens fonctionner. L'exemple le plus récent en France, c'est le Comité national d'éthique qui a organisé un jury de citoyens sur la fin de vie. Ce jury de citoyens, et c'est une grande première en France, n'a pas été contesté dans son principe même et a produit un avis sur la fin de vie qui aura une influence sur le débat public et peut-être la législation à venir. On voit des expériences absolument fascinantes, l'expérience islandaise, la constitution islandaise, auquel fera peut-être référence David Farrell, l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, etc. Mais il y a des